J'ai vu de ma fenêtre cette semaine passer un corbillard et il emmenait vers le cimetière le devoir conjugal qui avait été condamné à mort le 23 janvier 2025 et qui a été exécuté le mercredi 28 janvier 2026.
Vu de ma fenêtre, Étienne Dallaire.
Ce devoir conjugal qui remonte sans doute à la nuit des temps, même s'il existe de nombreux devoirs conjugaux auxquels chacun des deux époux doit se soumettre, ce devoir conjugal était particulièrement restreint, tout au moins dans l'utilisation que nous faisions de ce terme, à l'acceptation de l'acte sexuel de la part d'une femme vis-à-vis de son époux. Récemment, je regardais une série télévisée qui montrait tout à fait ce contexte. Cela se passait au XVIIIe siècle, en Angleterre, dans le cadre d'un mariage arrangé, pour ne pas dire forcé. La jeune mariée s'opposait au maximum et refusait autant que faire se peut l'acte sexuel avec son époux. Évidemment, nous n'étions pas dans le contexte de ce que nous pourrions appeler un mariage d'amour et l'époux, se voyant refusé dans ses avances, finissait par être extrêmement violent et obligeait son épouse à se soumettre, ce qui pouvait ressembler à quelque chose comme un viol. Mais, semblait-il, à cette époque, un viol légitime et qui n'était pas condamnable par la justice. Devant de telles situations, nous ne pouvons que nous réjouir de l'abolition de ce droit traditionnel appelé « devoir conjugal ». Et je n'ai pas pleuré en voyant passer ce corbillard devant ma fenêtre. Mais cela mérite peut-être une réflexion un peu plus approfondie, car l'abolition ou la négation de ce devoir conjugal engendre un certain nombre de conséquences, à la fois pratiques, mais aussi au niveau du contenu. Qu'est-ce finalement que le mariage? Et comment le définit-on, semble-t-il, aujourd'hui? Selon un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 23 janvier 2025, le devoir conjugal serait contraire à la liberté sexuelle. Qu'est-ce qui a amené cette décision? La Cour d'appel de Versailles avait prononcé le 7 novembre 2019 le divorce au tort exclusif d'une femme parce qu'elle refusait, sans raison valable, d'entretenir des relations intimes avec son mari. Il y avait là, pour la juridiction versaillaise, une, je cite, « violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage ». Cette décision était parfaitement conforme à la jurisprudence habituelle dans ce domaine. Et d'ailleurs, l'épouse qui avait fait appel en cassation vit son pourvoi rejeté le 17 septembre 2020. Mais l'épouse saisit la Cour européenne des droits de l'homme aux fins de demander la condamnation de la France au motif que le prétendu devoir conjugal porterait atteinte à sa liberté sexuelle et à l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Par décision du 23 janvier 2025, la Cour européenne des droits de l'homme a estimé que le devoir conjugal tel que défini en France ne prenait nullement en compte le consentement aux relations sexuelles. Tout acte sexuel non consenti est une forme de violence sexuelle, selon la Cour européenne. Et c'est pourquoi, je cite, « l'existence d'une telle obligation est à la fois contraire à la liberté sexuelle et au droit de disposer de son corps et à l'obligation positive de prévention qui pèse sur les États contractants en matière de lutte contre les violences domestiques et sexuelles. » C'est ce que j'appelais la condamnation à mort du devoir conjugal. et l'exécution a eu lieu le 28 janvier 2026 à l'Assemblée nationale en France. 106 voix à 0, score exceptionnel. Les députés français, rapporte le journal Le Monde, ont voté à l'unanimité pour entériner dans le droit l'absence de tout devoir conjugal au sein du mariage. Certains esprits critiques ont néanmoins souligné que moins de 20% de l'Assemblée nationale avait unanimement aboli une loi qui en réalité n'existait pas. Dans un second temps, j'ai réagi, peut-être un peu tardivement, davantage comme chrétien. Et je pense que le chrétien a bien des raisons de se réjouir de cette lutte contre le fameux devoir conjugal. Car au nom d'une juste théologie du corps, l'Église prône en effet un don mutuel des époux, qui soit réellement un don, ce qui suppose vérité et liberté. Refuser l'idée que la femme se doit à son mari pourrait contribuer à mettre en avant un mariage du plein consentement, un mariage de l'union des cœurs et des corps en toute liberté. Familiaris Consortio le proclamait ainsi il y a 45 ans. Je cite « L'amour conjugal comporte une totalité où entrent toutes les composantes de la personne. Il vise une unité profondément personnelle, celle qui, au-delà de l'union en une seule chair, conduit à ne faire qu'un cœur et qu'une âme. Mais les arguments avancés à l'Assemblée nationale et à la Commission européenne des droits de l'homme ne sont pas tout à fait du même type. Ainsi, lorsque la proposition a été discutée à l'Assemblée nationale, les socialistes et les insoumis ont réclamé qu'on supprime la mention de fidélité dans l'article qui énumère les obligations résultant du mariage. Car, à leurs yeux, exiger la fidélité sous-entend que le mari et la femme ont forcément des relations sexuelles. Mais alors, que reste-t-il du mariage ? On voit que derrière ce premier pas, que nous reconnaissons comme positif, d'autres pourraient suivre qui, cette fois, annihilerait le mariage civil, le viderait de son sens et finirait par être un simple contrat qui ne ferait que faciliter la vie de chacun des époux personnellement et individuellement. Si autrefois le mariage civil était une sorte de copier-coller du mariage religieux sans Dieu, il est de plus en plus clair que le but ici est de gommer le plus possible de points communs entre ces deux mariages et on ne voit plus bien alors la différence qui pourrait encore exister entre le mariage et le Pax. La décision de la Cour ne risque-t-elle pas d'avoir des conséquences, par exemple, dans le contentieux de la nullité de mariage ? Une femme qui pense avoir été manipulée dans le cadre d'un mariage avec un homme qui ne recherchait en réalité que l'obtention d'un visa peut actuellement, valablement, plaider la nullité de mariage pour défaut d'intention matrimoniale en établissant l'absence de relations sexuelles et de vie sous le même toit. Mais désormais, le mari assigné pour cette raison en nullité va pouvoir résister à la demande du plaignant qu'au nom de sa liberté sexuelle, il n'a pas voulu avoir de relation avec celle qu'il vient d'épouser. Rappelons que pour l'Église, la consommation du mariage est une condition sine qua non pour que le mariage soit valide. A contrario, un mariage peut être annulé par l'Église si il n'a pas été effectivement consommé. Pourquoi ? Parce que le don mutuel des époux dans le mariage prend toute la personne de chacun des époux, corps, âme et esprit. Si le mariage est blanc, s'il n'est pas consommé, cela peut être aussi interprété comme un refus d'ouverture à la vie alors qu'on s'y est engagé officiellement, devant témoin. Il ressort de l'arrêt de la Cour européenne une toute autre vision du mariage. Un mariage est avant tout, pour elle, l'union de deux personnes jalouses de leur individualité et de leur liberté, et qui finalement ne s'engagent en réalité à rien. Avec une telle conception, tout mari devient un violeur présumé qui aurait épousé sa femme uniquement pour l'abuser en toute légalité. Le mariage n'est plus perçu que comme une entrave à la liberté sexuelle individuelle. Comment, dans ces conditions, construire un couple, construire une famille durable sur la règle du chacun pour soi? On risque fort, dans une telle société individualiste, égoïste, de finir par en oublier l'essentiel, l'amour.
Vue de ma fenêtre, Étienne Dallaire.